Santé, André-Alain Atundu-Liongo, cadre de la majorité présidentielle et président national du parti politique dénommé Convention pour la démocratie et la République CDR, ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda et diplomate à Paris. Monsieur l'ambassadeur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Mathieu Kalélé, membre de l'opposition et président du parti politique dénommé Front pour un nouveau type de Congolais FNTC en sigle. Professeur Kalélé, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Dieudonné Kiombela de Kamina en Katanga. Le bilan est négatif car beaucoup de pays sont instables du point de vue politique et du développement. Pierre Shindano Koko de Goma en Nord-Kivu. Je crois que le bilan de l'Union africaine est catégoriquement négatif et je ne trouve plus la raison d'être de cette institution car le président de cette dernière n'est qu'une étiquette au détriment des souverainetés des pays africains. Nous sommes mercredi 30 mai 2012. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Créée depuis 1963, l'Union africaine a célébré le 25 mai dernier le 49e anniversaire de son existence. Cette organisation africaine a fonctionné de 1963 à 2002 sous l'appellation de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, avant de changer en Union africaine UA. À l'origine, son objectif était de promouvoir l'unité et la solidarité des États africains et de faire acte de voix collective du continent. Cette organisation s'était consacrée à l'éradication du colonialisme et avait établi un comité de libération afin d'aider les mouvements d'indépendance. Ambassadeur Emmanuel Mendoumé, vous êtes le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine à Kinshasa. Contrairement aux objectifs de l'Organisation de l'Unité africaine, quel est l'objectif de l'Union africaine?
L'Union africaine a un tout autre objectif. L'Union africaine doit bâtir une Afrique intégrée, prospère, en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène internationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, après le combat des pères fondateurs, qui a été surtout la libération, la décolonisation de l'Afrique, l'Union africaine a pour objectif aujourd'hui d'opérer le développement économique, le décollage économique de l'Afrique et l'intégration. L'Union africaine s'est résolument engagée dans la résolution des conflits en Afrique grâce au soutien de certains partenaires internationaux. Vous êtes au courant de l'action entreprise par l'Union africaine au Soudan avec le concours des Nations Unies, en Somalie également. Et vous savez également que l'Union africaine s'appuie sur les communautés économiques régionales. Vous suivez en ce moment ce que fait la CEDEAO pour le Mali et pour la Guinée-Bissau. Donc l'Union africaine intervient comme cela dans tous les pays où il y a les conflits, où il y a des désordres sur le plan constitutionnel, etc.
Les propos de l'ambassadeur Emmanuel Mendoumé ont été recueillis par Jeff Ngoy. À titre d'information, en 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, territoire contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front Polisario, mouvement nationaliste sahraoui, et 80% par le Maroc. En protestation à l'adhésion de la République sahraoui, le Maroc s'était retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'était également opposé quant à lui à l'adhésion de la République sahraoui et organisa un boycott de l'organisation de 1984 à 86. Certains États membres ont par la suite retiré leur soutien à la République sahraoui. André-Alain Atundu-Liongo, vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président national du parti politique dénommé Convention pour la démocratie et la République CDR, ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda et diplomate à Paris. Sur le plan politique, c'est sécuritaire et même de la résolution des conflits. Quand on observe les différents foyers de tension en Afrique centrale, au Sahel, la montée de l'islamisme et d'Al-Qaïda, quel bilan vous dressez de l'action de l'Union africaine aujourd'hui?
Merci beaucoup et salut à tous les auditeurs et ainsi que aux collègues qui ne sont pas là. Je crois qu'après 49 ans, on peut dire que d'une façon globale, l'Union africaine a réussi sa mission. Selon le principe anthropologique qui dit qu'une institution existe, une institution qui existe fait montre de son efficacité. Donc aussi longtemps qu'une institution existe, ça signifie qu'elle remplit son rôle. Donc on peut dire que globalement, l'Union africaine a rempli son rôle. Le premier, c'était la libération totale du continent, c'était fait, c'était de promouvoir et surtout d'éviter la fragmentation des États africains à partir de leurs indépendances par le principe de l'intangibilité. Et là, on peut dire qu'ils ont réussi parce qu'en réalité, il n'y a que deux États qui ont créé deux nouveaux États. C'est l'Éthiopie qui a créé l'Érythrée et le Soudan qui a créé le Sud-Soudan. Mais on oublie souvent de signaler que grâce à ce conditionnement de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, eh bien, deux États se sont réunis. C'est le Zanzibar et le Tanganyika qui forment aujourd'hui la Tanzanie. Donc, de ce point de vue-là, globalement, on peut dire que sa mission a réussi. Mais elle n'a pas réussi, pas encore réussi, à transformer son rôle en Union africaine. Son rôle, c'est quoi? C'est de passer de chambre d'enregistrement et de tribune de leaders en organe de gestion des relations des États africains, entre eux d'abord, et avec le reste du monde. Et là, l'Union africaine n'a pas encore les moyens à sa disposition. Parce qu'on peut se rendre compte que dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans le cas de la Libye, la position de l'Union africaine n'a pas été prise en compte. La Tunisie et l'Égypte, elle est restée comme ça, avoir passé le train sans réagir. Donc aujourd'hui, l'Union africaine se présente plutôt comme un défi de mutation. Est-ce qu'elle saura survivre avec cet objectif nouveau d'intégrer l'Afrique, de faire de l'Afrique un système unique de défense, ou tout au moins commun, un système commun de commerce international, un système commun de relations internationales? Et là, je crois que cet objectif est un peu piégé, parce que certains Africains, certaines régions, sont européennes. Je prends l'exemple des pays qui utilisent la monnaie franc CFA, qui est garantie par la France, et la France garantie par l'Europe. Donc, vous voyez, nous sommes un peu piégés, mais je crois que l'option est tout à fait valable, et il faut rendre hommage ici à la clairvoyance des pères fondateurs, qui ont compris que le problème devant lequel nous courions, c'était la fragmentation de l'État. Et le nouveau, c'est qu'ils se sont dit comment l'Afrique et les États africains vont-ils affronter le reste du monde, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan des relations politiques, etc., etc.
Mais ne fallait-il pas carrément dire, Monsieur l'ambassadeur Atundu, que le bilan est négatif? On le verra d'ailleurs, beaucoup d'auditeurs l'ont également évoqué. Du moment que, sur le principe, l'Union africaine, comme vous l'avez dit, a globalement réussi, mais dans les faits, on a l'impression que l'Afrique est absente de tous les grands rendez-vous.
Mais c'est ça le défi. C'est ça le défi, là. Le défi qu'a compris ou qu'ont compris les pères fondateurs de l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine était une étape dans la vie de l'Afrique. Il fallait libérer le continent, éviter la fragmentation pour se représenter de façon unie face aux enjeux du monde, de la mondialisation. Alors, on a créé l'Union africaine, mais sans se donner vraiment les moyens de faire face à ces enjeux-là. Parce qu'aujourd'hui, la politique africaine n'existe pas. L'Afrique du Sud a une politique différente du Maghreb. Le Maghreb a une politique différente de la CDAO, la CPGL, etc. Ça, c'est un grand défi. Deuxièmement, l'autre défi, c'est qu'il faut savoir se défendre. Il faut avoir un instrument de défense qui puisse être dissuasif pour les forces de déstabilisation des États africains et pour l'invasion des autres États, l'intervention des autres États en Afrique.
Et visiblement, comme vous le dites, hein, les objectifs ne sont pas encore les mêmes. Au moment où, au niveau de l'Europe, la tendance est plutôt à l'unité, malgré certains problèmes, mais on a l'impression qu'en Afrique, on a plus tendance à se refermer sur soi-même, à consolider ses frontières en repoussant les autres.
Alors, l'Europe a un autre parcours, mais qui est passé par le nationalisme restreint. Que vous dites. Et c'est parce que ils avaient en face d'eux un pays qui fondait sa puissance sur la grande communauté, l'URSS, qu'ils se sont dit, eh bien, nous n'avons pas intérêt à nous diviser. C'est ainsi que l'Europe est devenue unie et ils ont créé l'OTAN en intégrant les États-Unis d'Amérique et ils ont su faire face à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu'ils ont vaincu, et aujourd'hui, ils cherchent en réalité les modalités d'existence et de fonctionnement avec la défaite de ce grand ennemi. Et les problèmes économiques que l'Europe affronte actuellement, les troubles sociaux consécutifs, eh bien, sont un moment de réajustement structurel et thématique.
Professeur Mathieu Kalele, vous êtes membre de l'opposition et président du parti politique dénommé Front pour un nouveau type de Congolais. Professeur, tous les problèmes que connaît l'Afrique aujourd'hui, l'Union africaine, ne sont-elles pas la résultante de l'échec de la gouvernance et de la démocratie?
Oui, mais je crois que dans ce cas, on ne discute pas opposition-majorité, on discute Afrique. Si le premier objectif, la décolonisation, au départ, a été atteint globalement, il faut reconnaître que même dans ce chapitre, très vite, on est revenu à la néocolonisation. Beaucoup de chefs d'État, mis au pouvoir après le coup d'État, par l'Occident, généralement, lorsque cela arrive, l'Union africaine ou l'organisation de l'unité africaine fait semblant de bouder ces coups d'État, ces chefs mis au pouvoir pendant un temps et l'exclure de certains sommets. Après, ils finissent par le reconnaître. Il faut également reconnaître que quand, pour ce qui est du développement, nous avons beaucoup régressé. Quand on parle du développement mondial, dans les différents pays, l'Afrique vient toujours à la queue, malgré ses potentialités. Il faut également reconnaître que nous avons encore en Afrique des bases militaires occidentales qui opèrent. Ça, ce n'est pas pour assurer l'indépendance. Que également en Afrique, les élections sont pour le moins, de manière générale, non orthodoxes et l'Union africaine avalise. Le plus grand scandale, c'est, comme on l'a épinglé tout à l'heure, le cas de la Côte d'Ivoire et le cas de la Libye. Quand l'extérieur décide du départ de tel ou tel chef d'État africain, l'Union africaine envoie des émissaires, généralement pour avaliser cette décision-là, convaincre le chef de l'État de partir. Ça, ce n'est pas servir les intérêts de l'Afrique. Et vous savez que très tôt, même du temps de l'OUA, la déception était telle qu'on parlait de l'OUA comme un syndicat des chefs d'État qui traitaient les affaires entre eux, les populations ne se sentaient pas concernées. Je dirais que comme vos internautes, globalement, le bilan, il est négatif du point de vue de l'indépendance, du point de vue du développement économique, du point de vue de la capacité de résoudre les conflits. Nous sommes à la remorque des pays tiers qui dirigent, qui donnent des instructions et qu'on exécute. Donc, et en plus, lorsque il s'est posé le problème des États-Unis d'Afrique, ou même un embryon de réunion d'unité dans ce sens, nous avons vu les divisions avec les chefs d'État africains. Alors que l'on sait très bien que, à travers le monde, les États-Unis, l'Europe, la puissance se trouve dans l'Union. Des États se mettent ensemble au nom du principe « l'Union fait la force ». Mais en Afrique, on donne des instructions pour s'opposer à cette union-là et il y a des chefs d'État qui exécutent.
Professeur Mathieu Kalélé, vous intervenez une fois de plus après cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale pour vous.
François Moulumba à Kisangani en province orientale. À mon avis, l'Union africaine a failli à sa mission. Entre autres, la sauvegarde de la paix des frontières entre les pays africains. C'est ainsi que je la considère comme un père de famille vieillissant, mais incapable de résoudre les conflits issus des enfants nés de femmes différentes. Prenons l'exemple de l'Égypte, Libye, Côte d'Ivoire, la RDC, lesquels pour les résoudre, il a fallu l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU, d'où je propose à l'Union africaine la modification de ses objectifs, sa façon d'intervenir et de résoudre les conflits nés des frontières, des élections, enfin, exploitation illicite des minéraux.
Professeur Kalélé, il a épousé pratiquement votre point de vue, mais on peut se demander si l'Union africaine a vraiment les moyens de sa politique.
Mais pourquoi elle ne cherche pas ces moyens? Parce que dans le concret, vous savez que c'est nous-mêmes ou nos chefs d'État qui signent des contrats qui permettent notre surexploitation. C'est les chefs d'État avec une mauvaise gouvernance qui appauvrissent leur pays et sont obligés d'aller emprunter. On entre dans le cycle infernal de la dette et on est obligé de travailler pour payer les dettes et on n'avance pas du tout.
Merci. Merci. Professeur Pierre Virgence, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo. Professeur, l'objectif de la décolonisation a été atteint, mais très vite, l'Afrique a été rattrapée par le néocolonialisme et le bilan de l'Union africaine est négatif, d'après le professeur Mathieu Kalélé. Quelle est votre analyse?
Et moi, je serais un peu moins radical que cela. Il me semble que, bien entendu, l'Union africaine ne peut pas remplir, je dirais, répondre à tous les espoirs qui ont été mis en elle. C'est certain que quand on attend d'une organisation dans laquelle les États ont mis si peu de moyens, qu'on attend qu'elle fasse la loi entre les États, bien entendu, on sait bien que ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui a été maintenu vivant grâce à l'Organisation de l'Unité africaine, puis grâce à l'Union africaine, c'est le principe que les chefs d'État discutent entre eux. On a rappelé la phrase ironique sur le club de chefs d'État, et c'est vrai que ça a été à un moment donné limité à cela, l'Union africaine, mais en même temps, c'est déjà beaucoup. Il y a plusieurs continents, dont l'Europe par exemple, qui ont perdu pendant plusieurs siècles la capacité de parler entre les dirigeants et qui ont alors conduit leur peuple à des guerres absolument infernales. Il y a eu des tensions en Afrique, il y a eu des guerres, il y a eu des situations tragiques, mais on n'est pas arrivé à une situation aussi grave que celle, par exemple, de la guerre 14-18 en Europe ou de la guerre 40-45 en Europe aussi. Et donc là, on voit bien que malgré, on sait bien, la guerre qui s'est passée à l'est du Congo est une guerre horrible, monstrueuse et avec beaucoup de morts, mais on n'est pas arrivé à des niveaux de destruction tels que les Européens ont atteint au XXe siècle, grâce au fait justement que les dirigeants se parlaient entre eux. Et je tirerais même une conclusion moins tragique de la façon dont l'Union africaine a fonctionné durant les dernières années. J'ai l'impression que, et en Côte d'Ivoire, et en Libye, et d'ailleurs pourrait-on dire peut-être au Sénégal, l'intervention de chefs d'État africains a permis probablement de voir si les pays voisins étaient d'accord ou non avec une intervention étrangère et de régler, quand c'était possible, à l'intérieur des conflits pour éviter qu'il y ait une intervention de pays d'autres continents et, quand ça n'a pas été possible, pour, d'une certaine manière, donner mandat. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de l'Union africaine, comme à l'intérieur de l'OUA auparavant, il n'y a jamais eu d'unanimité politique. Il y a toujours eu des tensions politiques. Dès le début de l'OUA, il y a eu des tensions entre Kwame Nkrumah et sa tendance, je dirais, vers le socialisme et le communisme, et Léopold Sédar Senghor, qui n'avait quand même pas la même tendance. Il n'était pas du même côté dans la guerre froide, et en même temps, ils ont quand même réussi à maintenir un dialogue à l'intérieur de l'Afrique. Donc, il faut vraiment relativiser. Si on regarde, comme on l'a dit tout à l'heure, un des intervenants précédents l'a fait remarquer, si on regarde l'effet de l'OUA sur le développement, l'effet de l'Union africaine sur le développement, c'est simplement nul. C'est logique. Les États n'ont pas donné de moyens à l'Union africaine pour agir, et donc l'Union africaine n'a forcément pas les moyens d'agir. Mais ça, peut-être qu'il faudra attendre que ça passe par un autre biais que par l'Union africaine. L'Union européenne n'est pas devenue riche par le fait que l'Union européenne existe. Les pays étaient des pays riches et bien organisés et industrialisés auparavant. Donc on peut dire d'une certaine manière que l'Union européenne n'a pas été le moteur de la richesse européenne. Le moteur de la richesse européenne, c'est l'organisation du travail qui a été mise au point durant les siècles qui ont précédé. Et de la même manière, on peut dire aussi, il faut rappeler qu'à cette période-là, dans les années 60, quand on construit l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, et qu'on construit le marché commun à ce moment-là, en Europe, le marché commun est imposé, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais pas tout à fait parfaitement, a été imposé par les États-Unis. Ce sont bien les Américains qui ont décidé que les pays européens devaient s'unir, que c'était la condition pour recevoir les aides du plan Marshall, et ils ont fait ça comme instrument de guerre contre l'Union soviétique, et ça a été bien souligné, contre l'Union soviétique, qui était effectivement le grand ennemi des Américains. L'Union européenne, c'est la création des États-Unis, alors que l'Union africaine n'est pas la création d'autres continents. Donc moi je dirais, c'est vrai que si on met des ambitions économiques et sociales à l'Union africaine, c'est très décevant, ça c'est certain.
Merci professeur.
Content de dire qu'il y avait des missions, je dirais, diplomatiques, alors on peut en tirer un bilan satisfaisant.
Merci professeur Pierre Virgence. Monsieur l'ambassadeur à Tundu, il y a cette réaction qui vient de Vienne en Autriche pour vous.
Franck Mbomi, je suis en Autriche, dans la ville de Vienne, la capitale. Parler du climat de l'Union africaine, c'est bien, mais qu'est-ce que l'Union africaine a jusqu'ici atteint concrètement au niveau de la politique intérieure, au niveau de la politique africaine? C'est peut-être un petit cercle d'amis qui vont se rencontrer, puis il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de visibilité, il n'y a que les dictats qui viennent de quelque part, puis on nous l'impose, ça s'arrête là, tant que notre continent ne se prendra pas financièrement en charge. Tant qu'il y aura toujours des tactiques néocolonialistes et impérialistes, tant que ces tactiques seront maintenues sous diverses formes, l'Union africaine aura de la peine pour atteindre l'intégralité de ses objectifs. Quand il y a par exemple des conflits post-électoraux, quand il y a par exemple des contestations par-ci par-là, ce sont les Occidentaux qui cherchent toujours à nous imposer leur point de vue.
Tantôt vous parliez des défis que doit relever l'Union africaine, monsieur l'ambassadeur Atundu, mais le professeur Kalele a parlé, ainsi que le professeur Virgens, de l'Union africaine autrefois, ou ironiquement appelée syndicat des chefs d'État. N'y a-t-il pas un problème de gouvernance et de démocratie à la base?
Je crois que ce qui frappe les gens, le professeur Kalele l'a dit, et la plupart des internautes, c'est l'incapacité de l'Union africaine à résoudre le problème géré par nos indépendances, les relations entre États. On pensait que l'indépendance suffisait à cimenter l'unité de l'Afrique et à transformer l'Afrique en un instrument de conquête nationale.
Alors que l'indépendance a amené ses problèmes.
On s'est rendu compte, et c'est là qu'il faut rendre hommage à la clairvoyance des pères fondateurs de l'Union, de l'OUA, c'est que il faut sauvegarder l'unité, d'abord physique. Eh bien, grâce à la non-intangibilité des frontières, on a sauvegardé l'unité physique. Alors, deuxièmement, nous avons un autre défi, c'est de créer l'unité idéologique. Le représentant, l'ambassadeur de l'Union africaine ici, a dit que le défi, c'était de créer un système. Effectivement, l'Europe a une unité idéologique imposée par les États-Unis, mais assimilée, et aujourd'hui, ils se battent pour cela. Mais ici, chez nous, il y a plusieurs Afriques. Il y a plusieurs Afriques. Donc, nous devons d'abord créer une seule Afrique au niveau du fonctionnement. L'Afrique doit fonctionner comme un système intégré sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des ambitions économiques et politiques, et sur le plan, je dirais, de la législation. Or, ça, nous n'avons pas les moyens, parce que cela suppose que nos richesses, que nous ayons une banque qui soit capable de financer cela. Les opérations politiques se financent. En Europe, si ce n'est pas l'Europe, c'est les États-Unis, aujourd'hui, ils vont en Chine.
Mais la démocratie et la bonne gouvernance ne seraient pas des solutions à ce problème.
Oui, mais justement, c'est une solution et un problème. La démocratie, c'est un noble idéal. Mais beaucoup plus important que la démocratie, ce sont les démocraties que l'on vit concrètement. L'Europe n'a pas une seule démocratie. L'Europe a plusieurs démocraties. Il y a des démocraties avec des souverains, il y a des démocraties avec plusieurs partis, il y a des démocraties avec des partis dominants. Pourquoi devrait-on imposer un seul type de démocratie en Afrique? Et c'est là où il faut déplorer, jusqu'à présent, l'inexistence, disons, la non-expression de notre capacité conceptuelle à concevoir, à nous donner un type de démocratie donnée.
Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a la situation qui prévaut au Mali. Faudrait-il une démocratie à la malienne, une démocratie à la congolaise, une démocratie...
Non. Il n'y a pas une démocratie à la française, il n'y a pas une démocratie à la britannique. Il y a des principes qui répondent à l'histoire de ces pays-là. L'histoire, l'élément fédérateur de l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est le royaume, c'est la royauté. Eh bien, ils ont sauvegardé cela. L'élément fédérateur de l'histoire de la France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, un État laïque. Ils l'ont sauvegardé. L'élément fédérateur des États-Unis, c'est la liberté d'expression, l'esprit d'aventure. Ils ont sauvegardé cela. Mais ici, quel est l'élément fédérateur de l'histoire du Congo, de l'histoire du Mali. Il faut avoir des diagnostics par pays. Enfin, et ce sont les Africains qui vont dégager les valeurs communes qui structurent la viabilité de l'Afrique en tant que système et en tant qu'entité par rapport aux autres entités du monde.
Professeur Mathieu Kalele, il y a Carlos Benga de Butembo Nord-Kivu qui dit « L'Union africaine s'est déjà vidée de sa substance en s'écartant totalement du panafricanisme originel. De tous les continents, l'Afrique est aujourd'hui le plus divisé, le plus vulnérable, le plus infiltré sur tous les plans idéologiques, politiques, sécuritaires et économiques. Congo, Kababa de Mbujimaï au Kasaï-Oriental, l'existence de l'Union africaine sera toujours symbolique si elle n'arrive pas à intérioriser ce principe. » Et l'on se demande pourquoi fêter l'anniversaire d'une organisation qui souffre de complexes d'infériorité et d'impuissance d'action sur l'échiquier international, notamment devant l'OTAN en Libye. L'Union africaine peut-elle nous dire qui a tué Muammar Kadhafi et pourquoi? Professeur, avec tout récemment le printemps arabe, on a la montée de l'islamisme radical avec la montée d'Al-Qaïda également, le terrorisme en Afrique. Comment on peut comprendre ces deux données?
Bon, je crois que les internautes ne sont pas éloignés de notre thèse. Ils ont raison. Et les faits leur donnent raison. Mais je voudrais commencer par une observation. Je crois qu'il est dangereux de croire que l'Afrique doit suivre le même chemin que l'Europe pour son développement ou pour son unité. L'Europe a été unie à cause des États-Unis, donc attendons aussi que quelqu'un d'autre nous unisse. C'est une fausse démarche. On dit d'ailleurs que aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il faut créer, il faut inventer. Mais lorsque vous avez à la tête des États les gens qui sont placés par des puissances étrangères, ce n'est pas pour le développement, c'est pour faciliter le pillage. Et si ce sont des dictatures, ce n'est pas pour le développement. Vous savez que nous avons dans l'Union africaine, comme de l'OUA et tout ça, l'auto-sabordement. Les Africains conviennent de se mettre ensemble, d'avoir une organisation pour aller de l'avant. Et vous avez beaucoup d'États membres de cette organisation qui ne cotisent pas. Ça signifie quoi? Lorsque également on voit ce qui se passe. On a cité le Mali. Il y a des pays africains qui se portent en colonisateurs d'autres pays africains. Le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a été proposé, il a été pratiquement imposé par le Burkina Faso. C'est une forme de colonisation interne. Lorsque nous arrivons en 85, je crois, 84 ou 85, Muammar Kadhafi devait prendre la présidence tournante de l'OUA à l'époque. L'Occident a instruit certains chefs d'État de ne pas se rendre en Libye. Le quorum n'avait pas été atteint. Ils ne se sont pas rendus là-bas. Et je crois aussi qu'il y a un problème de vocabulaire. Lorsqu'on parle de l'islam modéré, de l'islam extrémiste, etc., est-ce que le problème, il est religieux? Non. L'islam est mal vu de ce côté-là parce qu'il s'oppose à la domination et à l'exploitation. Et il y a quelque temps, c'était le communisme. Mais au même moment où on le combattait en Afrique, il y avait des partis communistes en Europe y compris en Italie à côté du pape. Donc, faisons très attention au vocabulaire. La guerre des autres n'est pas forcément notre guerre. Lorsqu'un occidental défend les intérêts de son pays, on l'appelle nationaliste. Lorsque ailleurs on défend les intérêts de son pays, on dit radical, communiste, terroriste, extrémiste et islamique.
Professeur Kalilé.
Oui.
Professeur, permettez à ce niveau que je vous pose une question de précision. Professeur, on a l'impression actuellement, avec l'arrivée de François Hollande à la tête de la France, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'États africains qui sont nostalgiques de cette fameuse France-Afrique. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Union africaine est presque orpheline de la guerre froide?
Non, écoutez, l'une des raisons pour lesquelles, tout en sachant que la politique étrangère ou la politique africaine de la France ne va pas changer fondamentalement. Nous étions déjà déçus avec le comportement de Mitterrand, un autre socialiste. Aujourd'hui, on dit, Hollande a déclaré qu'il ne va pas traiter avec les gens qui ont été frauduleusement élus, qu'il va revoir le problème de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est en somme un ministère de colonie auprès de l'Élysée.
Merci. Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, la France-Afrique, c'est aussi un sujet d'actualité. Quelle est votre perception de la collaboration qui devrait y avoir actuellement entre la France et l'Afrique, avec l'arrivée de François Hollande à la tête de la France?
Si vous me posez la question, la collaboration qu'il devrait y avoir, ça devrait être une collaboration entre pays égaux et qui collaborent dans la bonne volonté. Mais dans la réalité, ce sera évidemment autre chose. Et je rejoins assez bien l'intervenant précédent qui disait que quand un pays s'intéresse à un autre pays, c'est le plus souvent pour défendre ses intérêts à lui et non pas les intérêts du pays où il intervient. Et je crois aussi que la politique française en Afrique ne va pas être modifiée du jour au lendemain, parce que la société Areva, qui a besoin de l'uranium qui se trouve dans toute une série de pays africains, la société Total qui trouve sa source de pétrole dans toute une série de pays africains, continue à avoir évidemment leur lien privilégié avec l'État français. Et là, c'est évident que le président de la République française ne va pas, parce qu'il est de gauche, devenir tout d'un coup un vrai défenseur du tiers-monde. Je pense que le tiers-monde ne sera défendu que par les habitants du tiers-monde. Je pense qu'il ne faut même pas d'ailleurs faire confiance aux dirigeants du tiers-monde, ce sont les habitants qui doivent se défendre. Et donc là, je pense que effectivement la France-Afrique risque de voir le même scénario qu'à l'époque de Claude Cheysson, où effectivement, à ce moment-là, pendant un moment, François Mitterrand avait essayé une autre politique en Afrique et puis, très rapidement, en fait, il a remis de l'ordre dans la politique africaine et il a en réalité reproduit le système gaulliste qui était en place auparavant. Et on sait que dans le génocide du Rwanda, on a mis en évidence le rôle de fils de Mitterrand, qu'on appelait d'ailleurs ironiquement en Afrique Papa Mali. Et donc là, je pense que le fait que le président ait changé peut vouloir dire en tout cas que nous n'aurons plus les discours arrogants et provocateurs sur l'homme africain qui ne serait pas encore sorti de l'histoire, et je dirais des choses pareilles qui, semble-t-il, venait du siècle d'avant la colonisation. Hein. C'est assez étonnant comme phrase, mais ça ne veut pas dire pour cela que les États d'Afrique vont se retrouver totalement respectés.
Merci, professeur Pierre Virgence. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Et rappelez en même temps qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Monsieur l'ambassadeur André-Alain Atundo-Liongo, vous avez été diplomate à Paris. La France-Afrique, je présume que vous en savez quelque chose.
Oui, la France-Afrique que l'on déplore, c'est le dérapage d'un certain comportement. Mais la France-Afrique, j'allais dire presque ontologique, la réalité, c'est que chaque continent a des rapports particuliers avec ses partenaires. La France a des relations particulières avec l'Afrique du fait que, par exemple, nous parlons le français, nous nous comprenons, nous avons un même fond culturel. Donc ça, il faut sauvegarder cet aspect des choses, parce que ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour nous aussi. Et la finalité de toute action diplomatique, c'est d'avoir des relations particulières avec l'autre partie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la clause de la nation la plus favorisée. Ça, c'est l'objectif. Et l'objectif des Africains vis-à-vis de la France et des autres pays européens, c'est d'avoir avec chacun des pays la clause de la nation la plus favorisée. Ce que nous cherchons pour nous, eux aussi cherchent pour eux. Et donc ici, je crois que c'est une question de maturité. Il faut comprendre les réalités de la vie internationale, les intérêts. Est-ce qu'il y a un intérêt de l'Afrique en France ou il y a les intérêts des États africains en France? Donc, il faut d'abord que nous puissions créer ce système unique, faire de l'Afrique un système qui a un intérêt commun pour pouvoir résister ensemble, en synergie, avec face à l'invasion ou à l'envahissement des intérêts mondiaux ou mondialistes.
Alors, juste un mot en guise de conclusion, monsieur l'ambassadeur Atundo.
En guise de conclusion, l'avenir de l'Afrique est un chemin dur à créer par les Africains, compte tenu de toutes les réalités que nous connaissons depuis nos indépendances.
Professeur Mathieu Kalélé, également un mot déjà pour conclure.
Deux mots. Je crois qu'il faut rappeler que la France, on a parlé du réseau Focard. Le réseau Focard, c'était une colonisation. Il fallait placer les gens avec des missions déterminées. Si on l'accepte maintenant, c'est qu'on renie l'objectif du départ. Il y a en plus le fait que on a parlé de conflits. Vous avez des États africains, membres de l'Union africaine, qui attaquent d'autres pays africains. J'étais en 2004 au sommet de la SADC à Gaborone. Le Rwanda demande d'intégrer la SADC. À l'unanimité, les pays qui étaient là-bas ont dit non, c'est parce que c'est un pays africain, membre de l'Union africaine, qui attaque un autre pays africain. Ça existe. En conclusion, donc, je dis que il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et là, je m'en remets à la jeunesse montante qui, malheureusement, dans beaucoup de pays, n'est même pas correctement informé des réalités de son continent.
Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, un mot pour terminer.
Bien, je pense que l'histoire de chaque unité régionale, que ce soit pour l'Amérique du Sud, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour l'Asie, etc., chaque histoire est particulière, et l'histoire de l'unité africaine, de l'union africaine, c'est aussi l'histoire de gens qui essayent de s'entendre, et qui essayent de s'entendre malgré les différences. Donc c'est à la fois une belle histoire, et en même temps c'est quelque chose de lent.
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à Guy Maté, Kevin Kouté, Samuel Kachak, Pelekipe Lamondo, Guy Manzangou, Alain Goy qui m'ont aidé à préparer cette émission. Présentation et coordination, Alain Irung, Mouchinch, au revoir.